Salut tout le monde, c'est Yves Le Brasseur et mon acolyte,
Kevin Fu.
On est ici pour notre 10e podcast et que le temps passe vite, mon Kev. 10 podcasts en combien de temps environ?
Ben, c'est 6 mois, mais en fin de compte, c'est notre 11e podcast parce qu'il faut se calculer que le New England IPA est en deux parties.
Ouais, c'est vrai ça. Fait qu'on est à notre 11e podcast en 6 mois.
Que les choses ont bien avancé, les gens nous apprécient, il y a plus en plus de views, de likes, puis ainsi de suite, et qu'on espère que notre information qu'on vous donne vous permet de donner des petits trucs pour votre brasse à la maison ou sur le site général, là, si ça vous fait juste plaisir d'entendre parler de bière.
Hey Kev, t'as-tu vu qu'est-ce qui s'est passé dernièrement là, pour notre 10e podcast? On voulait faire un spécial homebrew.
Ça s'est pas encore passé. Ah oui, celle-là. Ouais, ben ok, ouais. Malheureusement, on voulait faire participer les gens, mais on n'a pas pris de chance par certains commentaires. Et en même temps, pour la réalité de la loi, on veut pas avoir de troubles. On fit, c'est un commerçant, il y a un YouTuber, il a sa face un peu partout. Et qu'on veut pas avoir de mauvais feedback pour le bien-être de notre cher ami Fitz, pour que sa business puisse bien aller sans avoir de troubles d'extra pour rien. Et que malheureusement, le homebrew a pris le bord. Pour la loi québécoise.
Pour le monde qui n'a pas vu le post posté ou passé sur la communauté du brasseur, parce que je sais que beaucoup de monde qui nous écoute présentement sur YouTube ou en podcast ne sont pas sur Facebook, on a demandé pour notre 10e podcast, on voulait faire un spécial homebrew, que le monde nous apporte de la bière pour déguster. Puis on voulait vraiment vous donner des trucs, des conseils pour améliorer votre bière, s'il y avait trucs et conseils à donner, évidemment. Fait que ça aurait aidé plusieurs personnes qui nous écoutent à améliorer un peu leur petite technique. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Kevin aussi, je pense qu'il trouvait ça vraiment intéressant de pouvoir faire ça. Mais malheureusement, on a eu un commentaire comme quoi que sortir la bière de homebrew n'est pas légal au Québec. Tout ça pour dire qu'on a cancellé ce podcast-là, mais si tu travailles au gouvernement, là, toi qui nous écoutes, qui travaille au gouvernement, puis peut-être que tu travailles pour la régie des alcools, ce serait super intéressant que tu contactes, que tu nous contactes pour voir s'il n'y a pas un moyen qu'on peut vous aider à améliorer cette loi-là, à la mettre un petit peu moins restrictive, tu sais, peut-être quantité de bière qu'on a le droit de sortir de la maison, peut-être pour des certains événements ou certains comme... Kevin, il avait fait un spectacle, un show de télé qui n'avait pas le droit d'amener sa bière à faire déguster. Nous, on fait des podcasts, je fais des YouTube pour montrer au monde certaines choses. Tu sais, si on pourrait au moins juste ouvrir la loi, commencer comme ça, ouvrir la loi pour les shows de télé, puis les podcasts, les YouTubers, puis ces affaires-là, ben, tu sais, on est ouvert aux conversations, puis savoir, tu sais, c'est peut-être une loi un petit peu désuète, tu sais. Fait que si tu nous écoutes, puis tu travailles au gouvernement du Québec, ben, tu peux nous contacter au podcast à commercial.lebrasseur.ca, puis ça va nous faire un grand plaisir de pouvoir discuter avec toi et t'expliquer un petit peu la réalité du monde présentement. Tu sais, c'est pas avec 23 litres de bière une fois par semaine que tu vas être capable de gagner ta vie, là. Tu sais, c'est...
Puis on parle toujours de pas en faire une business, c'est vraiment de vouloir juste partager le produit qu'on a fait pour pouvoir que les gens puissent profiter de notre création. Quand elle est bien réussie, on est très fiers de faire goûter ça aux gens qu'on aime.
Puis surtout, quelqu'un qui veut se démarrer une microbrasserie, c'est le fun d'avoir des commentaires sur ta bière avant de commencer ton produit industriel. Tu sais, savoir si c'est dans le style du monde, c'est dans le goût. Tu sais, pas pour ramasser des sous, pour justement juste voir avec tes amis, ta famille, s'ils aiment le produit, puis qu'est-ce qui est amélioré dans le produit. Là, présentement, il faut t'inviter tout le monde chez vous. T'as pas le droit d'être plus que 10, fait que ça va pas trop vite pour avoir des bons commentaires ou des mauvais commentaires à s'améliorer.
Parce qu'il faut se rappeler que quand on va goûter une bière, peut-être pour vous, c'est la meilleure bière du monde, mais si vous avez le commentaire déjà, puis vous la vendez pas, cette bière-là, parce qu'il y a juste vous qui l'aimez, ben, en considération de dire que l'investissement que vous allez faire pour les milliers de dollars pour brasser ce bière-là puis qu'elle traîne chez vous, il y a un côté business marketing en arrière. Et c'est pour ça que ça va être assez important de trouver un genre de juste milieu pour faire plaisir aux brasseurs et en même temps à tous ceux qui vont acheter ce produit-là.
Parce qu'on le sait, hein, tu sais, prendre de la bière de microbrasserie aujourd'hui, c'est un petit peu pas un luxe que je vais dire parce qu'on aime vraiment cette bière-là, mais c'est en même temps, tu sais, payer 7-8 piastres la canne souvent. C'est un luxe. Fait qu'il faut s'assurer qu'elle soit bonne avant de l'acheter. Puis la personne qui le fabrique, ça lui coûte cher à la fabriquer. Fait qu'il faut que ça s'assure qu'elle soit bonne avant de la vendre.
Puis de l'autre côté aussi, vous avez beaucoup de microbrasseries au Québec. Et que vu qu'il y a beaucoup de compétition, vous avez beaucoup de choix, il nous manque tellement pas de disponibilité de choix au Québec. Si ça ne fait pas votre affaire, généralement, ben, vous allez vous retourner peut-être pour une autre microbrasserie. Et c'est pour ça que quand que le produit est sur le marché, les gens sont sûrs et certains de savoir de qu'est-ce qu'ils achètent. C'est ça qu'ils veulent. Puis ils disent, nous, ça reflète notre nom.
Ouais, mais mon cave, tu dis qu'il y a beaucoup de choix, là. Je trouve qu'il n'y a pas tant de choix que ça au Québec de sortes de bières. Je trouve que beaucoup de monde se lance dans les mêmes styles. Oui. Puis on a de la misère à avoir une grosse gamme. Tu sais, on regarde notre charte tout le temps de la BJCP pour avoir le plus possible de choix quand on fait le podcast. Puis on décide des bières, des fois Kevin fait une surprise, des fois c'est nos commanditaires présentement, c'est Ça coule la flot qui nous ont permis de déguster cette bière dans ce podcast-ci.
Merci beaucoup.
Merci à Ça coule la flot. Puis on a de la misère des fois à trouver certains styles. Tu sais, il y a une micro qui va en faire, une bière. Fait que tu sais, on n'a pas de choix réellement dans le style qu'on voudrait y aller.
Parce que nous, on essaie de toucher un petit peu à tout. Et que même que des bières, des fois qu'on n'aime pas, puis ainsi de suite, c'est un goût personnel. Mais d'avoir quand même le choix, on comprend qu'en arrière, c'est du marketing. Et si leur vache à lait, ça va être une New England IPA ou un IPA, mais ils vont continuer à faire ça parce qu'ils ont besoin de rouler puis d'avoir un roulement. Sauf que s'ils sont habitués, les gens, à dire « ben moi, je veux juste acheter ça », je peux comprendre qu'on a moins de choix sur le marché versus nos habitudes au Québec. Mais par exemple, aujourd'hui, on va parler de la Hefeweizen.
Hefeweizen.
C'est pas les bières les plus populaires sur le marché. Okay? Vous n'allez pas en trouver, même dans les boutiques spécialisées, c'est pas parce qu'ils veulent pas en avoir, mais c'est généralement qu'est-ce que les gens, les microbrasseries sur le marché vont offrir comme produit. Les Black IPA, c'est pas très très populaire. Les Cream Ale, c'est pas très très populaire
autant
non plus.
C'est très bon le Cream Ale.
Et que si vous allez magasiner pour ça, ben peut-être vous allez en trouver peut-être une dans le lot. Mais c'est pas parce que les gens ne le tiennent pas en stock, c'est juste que les microbrasseries ne les brassent pas pour fournir ce type de produit-là.
Style anglais, vraiment difficile à trouver présentement sur les tablettes. C'est style allemand, pur allemand, là, des Kolsch, des Hefeweizen, des Bock, il y en a plein de styles allemands qu'on a vraiment de la difficulté à trouver sur nos tablettes. Par contre, si vous cherchez une New England IPA, Simonac, il y en a beaucoup. Mais ça, c'est probablement votre faute à vous qui nous écoutez ou vous qui consommez, c'est que vous demandez tellement beaucoup de produits de NEIPA que les microbrasseries n'ont pas le choix d'en fabriquer beaucoup. C'est les bières qui sortent le plus. Fait que tant qu'à faire une Hefeweizen puis que personne ne la prenne, ben c'est un peu plate. Puis présentement, le monde veut des nouveautés.
Sans arrêt.
Juste des nouveautés.
À jaser avec des microbrasseries, il dit qu'on n'a pas le choix. Normalement, il y a plusieurs années, on habituait les gens à dire « Hey, ça, c'est ma bière. Je veux acheter celle-là. Je veux boire celle-là. » Aujourd'hui, la mentalité des gens fait comme « Ben, je veux quelque chose de nouveau. Je veux quelque chose de différent. » Et qu'ils n'ont pas le choix de travailler encore plus pour recréer des recettes, de refaire des tests. Est-ce que oui, on met ça sur le marché? Est-ce que les gens vont triper? T'sais, ça fait vraiment beaucoup de choses. Les gens veulent vraiment avoir du changement continuellement et qu'il y a beaucoup de travail qui doit se faire pour créer des nouvelles recettes. Mais c'est généralement pas des grosses variantes. Que oui, on peut essayer avec un fût en particulier, on peut essayer avec d'autres saveurs, des houblons différents, mais ça reste que la majorité des gens qui vont bâtir quelque chose de nouvelle recette, c'est des IPA, des New England IPA. Il y a un petit peu plus de surette. L'été sont là et que les surettes ressortent beaucoup plus. Puis un petit peu de gauze. La gauze devient un petit peu plus populaire. Mais encore là, c'est un goût à développer parce que c'est pas tout le monde qui aime ça quand que le petit côté surette.
Et salé. Mais tout ça pour revenir à nos styles de bière, qu'on a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de styles de bière. Puis on a vraiment, là, c'est rendu une grosse polémique dans une bière, c'est quoi? Tu sais, réellement, une bière, si on prend la définition d'une bière, t'as-tu déjà lu la définition d'une bière, mon Kev?
Non, juste dans ma bouche. Mais de base, on dit qu'il y a 4 ingrédients pour dire que c'est une bière. Et qu'on passe avec de l'eau, du malt, du blé et de la levure. Non, pas oublier ça, le blé, je recommence. De l'eau, du malt, du houblon et de la levure. Et que ça, c'est les ingrédients de base pour pouvoir faire sa bière. Après ça, qu'est-ce que vous voulez rajouter dedans? C'est des petites variantes pour faire des saveurs différentes, quelque chose d'un petit peu plus fancy. Ou vous aimez ça, une petite bière de fille, qu'est-ce qu'on dit?
Et pour faire une bière, principalement, l'ingrédient de base pour faire de la bière, c'est de l'orge. Fait que réellement, il faut que tu aies un certain pourcentage d'orge dans ta bière pour appeler ça une bière. Fait qu'il faut de l'orge, il faut du houblon, il faut de la levure. On a des styles de bière qu'on appelle une gruite, qui n'a pas de houblon. C'est même pas une bière, c'est une gruite. Ils ont vraiment séparé ça en deux catégories. Ça veut dire que si on veut une bière sans gluten...
T'as pas d'orge dedans, parce que sinon, ça va vous faire péter pour ceux qui ont allergique au gluten.
Mais théoriquement, t'as pas le droit d'appeler ça une bière. Une bière sans gluten qui a pas d'orge dedans, c'est pas une bière, c'est une boisson de surgoût.
Ben, je sais pas si c'est réglementé à ce niveau-là pour dire qu'ils peuvent l'appeler ou non une bière, mais...
Mais théoriquement, d'après ce que j'avais déjà lu, là, je peux me tromper, là. Mais d'après moi, que j'avais déjà lu, parce que Molson sont obligés de respecter de certaines normes pour appeler ça une bière, il faut qu'ils mettent un certain, Molson Labatt, les industriels, il faut qu'ils mettent un certain nombre de grains pour appeler ça une bière d'orge. Sinon, ils pourraient y aller juste avec du dextrose, puis on aurait la boisson alcoolisée, là.
Oui, ben, parce que je sais que dans certains cas, il y a certaines brasseries, microbrasseries, qui prennent de base l'orge, mais qui remplissent du dextrose pour pouvoir simplifier, pour ou bien de booster le taux d'alcool sans faire tout le processus d'empattage.
Puis, l'autre chose que je voulais en venir, c'est que présentement, il y a beaucoup de bières sur le marché qui ont à peu près n'importe quoi dedans. Tu sais, un smoothie, fait qu'ils rajoutent des fruits, mais tu sais, les fruits sont pas mis en infusion ou sont pas mis en dry-up, sont vraiment broyés puis mis directement dans le fût. On a du lactose à quantité industrielle pour donner un gros côté crémeux puis un gros côté sucré au bout qui vient du lait. On a des bières, des milkshakes qu'ils appellent d'ailleurs.
Des milkshakes à épier, qu'on voit ça que c'est vraiment un rajout. C'est un sucre dans un sens. Que, juste pour expliquer aux gens, là, c'est pas du lait que vous mettez dans votre bière. Là. C'est vraiment un sucre qui s'appelle le lactose qui va jouer un rôle plus sucre résiduel. Mm-hmm. Et qu'il ne fermentera pas, il va rendre la bière plus crémeuse au niveau du collet, au niveau du mouthfeel. Qu'est-ce que vous allez avoir? Et que ça, c'est un petit rajout que de plus en plus populaire dernièrement.
Puis là, si vous pensez là, que tous ces styles-là, puis toutes les nouvelles sortes de bières qui viennent de sortir sur le marché aux fruits, des bières avec du lactose dedans, des bières avec des écorces d'orange, des bières avec plein de fruits broyés, tu sais, un paquet doublon, trop doublon comme la NEIPA, si vous pensez que ça, c'est nouveau de 2018, 2019, 2020, là, que wow, on est rendu vraiment innovateur dans la bière, on fabrique avec plein de nouveaux sortes de produits qu'on va rajouter avec des sortes d'épices puis des affaires comme ça, là, ben détrompez-vous. Sachez qu'en Allemagne, en 1516, ils ont décidé de faire la loi de la pureté, qui était une loi allemande qui obligeait seulement... les brasseurs de bière, fait que si tu voulais faire de la bière, tu étais obligé de respecter cette loi-là, qui s'appelle la Reisgebot. Je le prononce sûrement tout croche, mais cette loi disait que tu avais le droit de brasser seulement avec de l'orge, de l'eau et du houblon.
Fait que eux, pour même, ils n'ont pas le droit de mettre d'acide lactique dedans, il faut qu'ils prennent du malt acidulé. Il y a des choses que.
T'as-tu remarqué, j'ai même pas parlé de levure?
Ah, c'est la levure spontanée?
C'est que dans ce temps-là, ils savaient même pas comment ça refermentait. Il n'y avait aucune idée que c'était de la levure en tant que telle. Ils ne rajoutaient pas de la levure spécifiquement d'un tel style. Ça venait du bâton du brasseur ou de certaines souches dans la brasserie. Fait que même la levure dans cette loi-là existait comme pas. Mais nous, on peut la rajouter parce que là, on s'entend, on ne fera pas tout le temps des spontanés. Fait que tout ça pour vous dire qu'on n'est pas innovateur. Puis déjà, en 1516... ils ont décidé de nous dire, écoutez, si vous voulez faire une bière, c'est avec ces ingrédients-là, that's it, that's all. Après ça, appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas une bière. Fait que quand t'allais dans une brasserie, t'avais une bière. C'est pour ça que quand on va prendre un style allemand, c'est rare qu'on va rajouter certaines choses pour améliorer la bière. T'sais, ils vont utiliser les techniques ancestrales pour pouvoir refléter le goût de la bière qui est vraiment là. Fait qu'on va pas rajouter une tonne d'houblon, on va pas rajouter une tonne de lactose, on va pas rajouter une tonne de sucre, on va pas rajouter une tonne de d'épices différents. On va y aller vraiment avec l'orge, le blé, puis l'orge, le blé, l'orge, ça revient au même, la matière première, l'eau, la levure. Puis qu'est-ce qui est le fun dans la bière qu'on va boire aujourd'hui, la Hefeweizen?
Moi, je vais juste dire, voici mon deux cents là-dessus, mon opinion. Là.
Oui.
Moi, j'ai dit, je me laisserai pas imposer... une idée d'une loi qui vient d'un pays en Allemagne pour le monde entier.
Non, mais
voici
écoute,
qu'est-ce que c'est. Je comprends qu'est-ce que c'est vraiment une bière. Mais
ben, juste pour te dire, ils ont fait la même loi en France, ils ont fait la même loi en Angleterre, ils ont fait la même loi partout.
Oui, mais elle est plus active, cette loi-là, à part l'Angleterre. À part l'Allemagne.
Elle n'est plus active aujourd'hui non plus.
En Allemagne?
En Allemagne, elle n'est plus active non plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont éliminé ces lois-là pour permettre aux brasseurs de faire encore plus d'essais et plus d'erreurs. Mais il y a un moment donné dans l'histoire, tous les pays qui viennent de l'Europe, tous les pays d'Europe ont décidé que ça en était assez d'avoir trop de choses qui n'avaient pas rapport avec une bière, qu'on mettait ça n'importe comment dans la bière, puis qu'on appelait ça quand même une bière. Fait qu'ils ont décidé, parce que c'était rendu n'importe quoi, ils ont décidé, tous les pays, la vraie bière, ils appelaient ça la real beer en Angleterre, c'est la loi, la Reisenbuch...
Reisgebot,
qui est en Allemagne, puis je pense que c'est la vraie bière en France. C'est toutes des choses qui étaient obligées de respecter ou qu'il fallait qu'ils enlèvent le plus possible des autres choses. Je dis pas qu'il faut jamais brasser avec des guédelles ou avec des fruits ou, tu sais, ma blanche à l'orange, je rajoute des oranges dedans. C'est correct, là. Il faut quand même avoir des bières qui sont le fun à travailler, puis que, tu sais, comme tu disais, oui, toi, tu vas rajouter certaines choses dans ta bière. C'est correct aussi. Mais si on parle d'un effet Weizen présentement, là, ça, c'est supposé, je sais pas s'il y a marqué ces ingrédients dessus la canne, là, mais théoriquement, pour avoir un effet Weizen, c'est du blé, c'est du pils, c'est du houblon, de l'eau, de la levure. That's it. Puis avec ces 5 ingrédients-là, parce qu'on va rajouter la levure dans notre cas, on peut créer une bière à banane, une bière à gumballoon, une bière plus épicée clou de girofle, ou une bière plus... ou une balance entre le clou de girofle épicé et le goût de banane. On peut avoir goût de banane, goût de gumballoon.
Puis un petit peu de vanille.
Puis un petit peu de vanille aussi. Tout ça...
C'est le résultat de la levure dans la fermentation avec les esters.
C'est sans rien ajouter.
Non.
Fait que tu rajoutes pas de banane, tu rajoutes pas rien d'autre. Fait que c'est ça que j'aime de créer de la bière, c'est que là, c'est rendu vraiment de la chimie. Puis là, en plus, si on parle d'eau, mais ça va nous aider aussi à aller donner un petit coup de sablage là-dessus pour être sûr que tout se balance super bien.
OK. Vous avez deux idées, deux mentalités sur l'industrie, avec les puristes ou les créatifs qui peuvent faire des choses extraordinaires ou peut-être n'importe quoi aussi. Il n'y a rien qui arrête les gens d'envoyer dans la créativité. Mais, assez parlé, aujourd'hui, on vous présente la Hefeweizen. C'est une, pour ceux qui veulent comprendre une Hefeweizen, c'est une bière blanche. Et que vous pouvez voir... Ah, que j'ai dans le front. Et que c'est une bière blanche. Et que c'est juste que la particularité vient que c'est une bière de l'Allemagne. Donc, il y a des petites variantes. Que si un exemple parlait d'une wheat beer... C'est aussi une bière blanche, une wheat beer, sauf que c'est une bière belge. Avec la levure, c'est une levure belge. Les saveurs vont varier parce que la majorité du temps, dans la description de la levure, dans la description de la wheat beer, vous allez rajouter un peu d'orange, de corse d'orange et de coriandre. Tandis que dans ce cas-ci, c'est vraiment les saveurs vont venir totalement de la levure. Fait que c'est à mon tour de...
D'ouvrir sa petite bière.
Sans j'ai rien giclé.
Fait que présentement, on t'apprend de boire une bière de qui, mon Kev?
C'est la microbrasserie de la Flûte à bec. C'est une nouvelle microbrasserie qui ont ouvert, si je me rappelle bien, dans les années 2017. Que c'est quelque chose quand même assez très récent, qui sont situés à Nicolet.
Où est-ce que le poste de police?
Oui, pas bien loin de Trois-Rivières. Fait que pour ceux qui, au niveau de la description, là, vous voyez, là, ceux qui peuvent bien le voir, là, Shawinigan, lis plus haut. Ah ben... Je vais se mettre en vert.
Non, c'est pas grave. OK, la bière a été créée par la microbrasserie de la Flûte à bec qui sont à Nicolet. Je crois, on va aller voir présentement parce que Kevin, il a pas fait sa job comme du monde.
J'ai pas lu le bas de la bouteille. Désolé. Et que dans mes fausses recherches que j'ai cherché une Hefeweizen qui n'avait pas beaucoup sur le marché, ben j'ai dévié un peu de notre règle interne qu'on s'était dit. Le but était de vraiment parler des microbrasseries qui brassaient leur propre bière. Mais Fitz vient de voir dans le bas de la canette que c'est marqué « Brassé et embouteillé par Brodru Microbrasserie ».
On est en train d'apprendre une Hefeweizen de la microbrasserie La Flûte à bec. En regardant la canette, on a microbrasserie La Flûte à bec avec son adresse, leur site web et leur Instagram et leur Facebook et tout. Puis en dessous, c'est marqué « Brassé et emballé par Broadway Microbrasserie à Shawinigan ». Ça veut dire que c'est mes amis de Broadway qui ont brassé cette bière-là et non mes amis de la Flûte à bec qui ont brassé cette magnifique bière qu'on est en train d'apprendre, qui est la Hefeweizen. Je suis allé voir sur leur site pour aller voir s'ils ont un système de brassage à la microbrasserie. Sur le site, je vois aucunement qu'ils ont un système de brassage. Fait que ça veut pas dire qu'ils n'ont pas, ça veut pas dire qu'ils brassent pas leur propre bière. J'en ai aucune idée. C'est juste pas très clair dessus leur site. Je suis allé voir leur Facebook aussi pour voir les photos, voir si je verrais pas un petit système de brassage ou un moyen système de brassage. J'ai juste deux photos qui me dit pas si c'est la microbrasserie qui brasse ou non.
Est-ce que souvent, qu'est-ce que les gens peuvent faire, c'est qu'ils vont brasser leur propre bière pour leur brewpub, pour fournir directement leur restaurant. Et des fois, pour des grosses batches, ils font affaire avec un sous-traitant pour pouvoir encanner et mettre ça sur le marché.
Parce que c'est pas tout le monde qui a les permis, puis c'est pas tout le monde qui a la capacité de le faire dans l'endroit où est-ce qu'ils sont.
Je m'excuse à tout le monde que j'ai un peu dévié de notre petite politique interne, qu'on voulait parler des microbrasseries, de ceux qui brassaient directement. Mais on va dire que peut-être qu'ils brassent chez eux pour leur brewpub, mais on ne peut pas confirmer.
Si quelqu'un le sait, vous pouvez nous le marquer en commentaire en dessous si vous êtes en vidéo ou nous envoyer la réponse par podcastcommercialebrasseur.ca. Je serais super intéressé de savoir s'ils brassent eux-mêmes leur bière au brewpub. Puis des fois, c'est super le fun à comparer. Là, des fois, le monde dit « Ouais, mais il brasse pas sa bière, je veux pas l'acheter. » Ça peut être super intéressant d'acheter la canette puis voir dans un gros système avec un autre brasseur comment qu'il brasse et comment que le brewpub fait leur bière. Puis souvent, là, j'ai remarqué qu'il y avait une grosse différence entre les deux goûts totalement. Fait que des fois, il y a du monde qui aime mieux la canette, des fois, il y a du monde qui aime mieux le brewpub. Puis ça dépend vraiment de quel coin que t'es. Si souvent t'es habitué à la bière du pub, ben t'aimes mieux la bière du pub que la bière qui a été brassée par l'autre brasseur. Puis c'est correct, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de règles ou bien d'infos de préférence. Après, oui, c'est votre goût à vous autres. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que vous qui goûtez à la bière, moi, c'est exemple, j'ai une recette de bière, je vous la donne, mais... Avec les mêmes ingrédients, votre bière ne goûtera pas pareil. Vous avez vos méthodes de travail, vous avez vos équipements de travail. Ça va peut-être se ressembler. Mais ouais. C'est exemple, vous êtes en amour avec cette bière-là, mais le brasseur joue un rôle aussi de sa méthode tout au long de sa productivité. Avec ceux qui sont très, très minutieux dans certains cas, et aussi les capacités, les cuves, les transferts, les résultats que ça donne dans des plus grosses capacités et des plus petits boils qui fait que des fois, on contrôle plus la température que des plus gros. Tout est possible, mais pour ça qu'on peut dire une fois qu'en canette, va peut-être pas nécessairement goûter directement pour ceux qui brassent sur place dans le brewpub.
Exactement. Puis si vous voulez pas vous faire avoir comme moi pis Kev présentement, lisez tout le temps les petites étiquettes où est-ce que c'est brassé. Bon, pour revenir à notre Hefeweizen.
Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est?
Oups. Mets ton micro, Kev, ça va aller un petit peu mieux.
All right. La Hefeweizen. Pour le style de la bière, on a parlé que c'était justement quasiment du moitié-moitié blé, moitié-orge. Le type d'eau, c'est un eau très... le corps est très léger à un petit peu dans moyen, et que c'est pas gros en bouche. C'était voulu comme ça. La carbonisation est très élevée. Le style dit qu'il faut que ça soit quand même très élevé. On joue à peu près entre 4,4 et 5,2% d'alcool. Que la bière qu'on boit présentement, c'est un 5%. Et les BU, comparativement à beaucoup de bières, c'est extrêmement bas. On parle de 8 à 15. Avec 8 à 15 BU, tout dépendant de votre taux d'alcool que vous allez faire, vous allez voir à quel point que c'est juste pour compenser, pour dire que vous goûtez juste le sucre. C'est juste une question de balance. Parce que les houblons, vous n'allez pas goûter de houblon dans votre bière. Autant au niveau d'arôme, au niveau de goût, c'est pratiquement absent.
Fait que présentement... Si on parle de la microbrasserie La Flûte à bec, on pourrait dire qu'ils sont dans le style. Mais j'aimerais mieux dire que Broadway, ils ont fait dans le style. La recette doit venir de la microbrasserie La Flûte à bec, mais ça a été brassé par Broadway qui ont créé la bière. Fait que pour le corps, ça a été super bien fait. Le corps est super bien. Pour le côté IBU, je trouve qu'ils sont un petit peu haut dans la gamme.
Mais sont quand même dedans.
Sont quand même dedans, mais sont à 15 IBU. Moi, j'aurais préféré un petit peu plus bas, malgré que le taux d'alcool est assez élevé, fait qu'ils ont augmenté leur taux d'IBU pour contrebalancer la bière.
Puis c'est toujours une question de ratio. Comme on a dit avant, tu peux pas fier au nombre d'IBU dans une bière au niveau du goût versus le taux de sucre que vous avez originalement. Il faut que ça suive un ratio... Pour suivre le taux de sucre et pour trouver votre balance, vous allez mettre le nombre de houblons pour avoir votre acidité, pas l'acidité, mais de l'amertume en conséquence du résultat que vous voulez avoir.
Puis présentement, moi, je goûte beaucoup la gomme ballon dans cette bière-là. Beaucoup plus gomme ballon que banane ou clou de girofle.
Énormément. Un petit peu de vanille, mais beaucoup, beaucoup la gomme ballon. C'est juste ça qui me laisse en bouche. Et même au niveau du nez, c'est ça qui ressort. Au niveau le restant que j'ai des saveurs en bouche, c'est vraiment le goût de banane, le goût de la gomme ballon qui reste.
Le gumball, bubble gum qui nous reste en bouche vraiment beaucoup. Et bière super bonne pour une Hefeweizen. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de goût de banane. C'est un goût qui est assez difficile à les retrouver, tout dépendant de la souche de lover que t'as. Malgré que certains... j'ai lu... vous avez vu mon dernier vidéo sur la Hefeweizen, justement. Mais j'ai lu un petit peu dessus le sujet, puis il y a une brasserie en Allemagne qui fermente bien en dessous des températures recommandées de la lover. Il fermentait ça à 17 degrés Celsius, qui lui faisait vraiment le clou de girofle puis le goût de banane vraiment prononcé. Je trouvais ça vraiment plaisant de voir que cette brasserie-là avait décidé de brasser une bière hors spec de la lover. Qu'est-ce que personne ne veut jamais faire? T'sais, si le fabricant de lover te dit c'est entre 19 et 22, un exemple... Puis toi, tu dis, moi, je peux vendre ça à 17, fuck off. Mais ça donnait une bière vraiment ultra balancée. Puis je pense que c'est une des meilleures Hefeweizen qui est au monde présentement. T'sais. Fait que j'ai vu beaucoup, beaucoup de blogs puis de spécialistes de bière, des biérologues, en parler de cette bière-là comme quoi qui était extraordinaire. Ça vaut la peine, des fois, de faire des tests à la maison pour dire, écoute, moi, je veux l'essayer. Puis au pire, allez, ça marchera pas, là.
Mais si on sortir un peu des sentiers battus, c'est de même que les jeunes, des fois, recréent des nouvelles choses parce qu'ils ont décidé de ne pas faire comme qu'est-ce que tout le monde faisait. Puis au pire aller, quand on fait ça à la maison pour une plus petite batch, ben c'est mieux de faire ça dans une petite batch que pour ceux qui veulent mettre ça sur le marché. Puis en fin de compte, ça va coûter très cher pour une batch pas bonne si jamais vous avez des petits problèmes avec.
Exactement. Puis présentement, on est supposé d'avoir quel OG de départ? Ça devrait être assez... le OG de départ puis le OG de fin doit être assez sec aussi, là, tu sais...
Ben, on joue entre 1.044 et 1.052, et que c'est pas très élevé comme taux de sucre original. Puis final, on finit quand même à 1.010, 1.014.
Quand même un petit peu de sucre résiduel.
Oui, donc si on veut ça très sec, il faut que ce soit en bas de 10, mais généralement, vous allez avoir peut-être une plus grande longueur en bouche parce qu'il va rester plus de sucre résiduel dedans.
Si tu veux brasser ça à la maison, Kevin disait 50-50, 50% de pilsner, 50% de blé malté. On peut aller à 70 aussi de pourcents de blé. Ça va respecter le style. Et certaines personnes, comme qu'on peut voir présentement, là, pour le monde qui sont en vidéo, il n'y a plus de tenue de mousse, zéro. Fait que pour si le monde aime la tenue de mousse, le carafonde, le carapils, le dextrine malt ou le shit malt peut être aussi mis dans ce type de bière-là pour garder un collet un petit peu plus gros.
Le shit malt?
Ouais, du shit malt. C-H-I-T, malt. C'est Bess qui le fait.
Ah!
Beaucoup de monde en met des New England IPA justement pour la tenue de mousse puis la couleur que ça va donner.
Puis pour ceux qui veulent brasser ce type de bière-là en cause du blé, vous allez besoin d'avoir de l'écorce de riz. Ça va être très important. Sinon, vous allez faire un stock mash parce que pour la quantité de blé que vous allez mettre dans votre empâtage, il n'y a pas d'écorce sur le blé. Et qu'en n'ayant pas d'écorce, l'eau ne peut pas bien être filtrée pour essayer d'aller chercher tous les sucres. Ce qui va faire que le grain va tout se compresser ensemble et l'eau ne passera plus. Et que vous êtes obligé de pogner une louche pour être capable de tout rebrasser ça, pour être capable de défaire. Mais quand on parle de 50 à 70% de blé, si vous n'avez pas de rice hull, de l'écorce de riz, vous êtes fait, oubliez ça. Là. Parce que si vous allez brasser, en même temps, vous allez sortir les tanins que vous ne voulez pas. Fait que,
il n'y aura pas de tanins. Il n'y a pas d'écorce.
Ça vient juste de ça?
Mm-hmm.
Bon, ben, vous n'allez pas être capable d'avoir votre sucre parce que l'eau ne passe pas. Fait que vous êtes fait.
Le gros problème de ça, c'est que justement, vu qu'il n'y a pas d'écorce, ça va vous faire une genre de pâte, puis que ça va faire du gluten. Puis le gluten, justement, c'est l'élasticité de la pâte. Si vous n'avez pas d'écorce de riz, vous pouvez faire travailler vos enzymes pour aller justement défaire la partie gluten qui va vous aider à mieux filtrer. Par contre, votre brasse va être un petit peu plus longue. Puis il faut être équipé pour faire des paliers. T'sais, si vous n'avez pas si vous mâchez dans une glacière, un exemple, ben vous pouvez pas faire de paliers. Fait que vous êtes mieux, comme Kevin dit, d'ajouter des écorces de riz. Ça coûte rien. Ça donne aucun goût. Par contre, il faut quand même calculer le nombre d'écorces de riz qu'on va faire parce que ça va quand même absorber un petit peu d'eau. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il faut mettre 10% du sans écorce. Si vous avez 5 kilos
De blé?
Oui. Tu vas mettre combien de pourcents d'écorce?
10%.
Ça veut dire 500 grammes.
Ben, qu'est-ce qui est quand même à ce niveau-là? Moi, je vois un petit peu à l'œil parce que ceux qui, au niveau du poids, l'écorce de riz ne pèse rien. Et que, je veux dire, c'est très, très fluffy, ça prend pas d'espace. Et qu'au niveau du poids, généralement, qu'est-ce que je fais quand que je vais brasser? C'est que je vais commencer à verser mon grain, puis après un certain temps, je vais racheter une poche d'écorce de riz, je vais rebrasser, je vais racheter un peu de grain, je rajoute un peu d'écorce de riz. Le but, c'est qu'il soit bien réparti partout, qu'il soit bien mélangé avec tout votre mélange de grains que vous avez, dans le but justement de pouvoir avoir une belle filtration et moins de problèmes.
Moi, qu'est-ce que je peux vous conseiller? C'est de rajouter de l'écorce de riz dans votre chaudière, de le brasser avant de verser votre grain dans l'eau. Comme ça, on va être sûr que l'écorce de riz est bien mélangée à travers tout le grain au complet ou le sans-écorce que vous avez. Puis par la suite, vous le versez dedans. Si vous avez un grandfather, c'est un petit peu plus compliqué, comme quelqu'un avait dit. Là. Je sais que lui aussi a un grandfather, là. Mais c'est un petit peu plus compliqué de faire moitié-moitié-moitié. Ici, souvent, on va faire surtout ce type de bière-là qui est 4%. Vous avez amplement de place pour mettre votre écorce de riz puis le mélanger à bras, puis par la suite le verser. Vous êtes sûr et certain que c'est tout bien mélangé. Moi, dans mon gros système ici, je commence par l'écorce de riz, je fais tomber du grain par-dessus qui me fait une couche protectrice au fond pour pas venir bloquer mon faux fond. Puis par la suite, je fais comme Kev dit, un peu de grain, un peu d'écorce de riz, un peu de grain, un peu d'écorce de riz. Comme ça, ça m'aide vraiment à avoir une belle filtration. J'en ai fait deux back-à-back cette semaine, vendredi, pour le mou du vendredi. Puis j'ai eu aucun problème de filtration.
C'est bien ça.
Je suis vraiment content. Ça s'est super bien passé la brasse. Puis j'ai très hâte d'y goûter. J'espère d'avoir des goûts de banane un peu plus dans ma bière que des goûts de gomme ballon parce que c'est un peu ça que je recherche dans la effervescence.
Okay, c'est pour ça que ce type de bière-là, la fermentation est primordiale. Tout vient de là. Donc, au niveau du type de souche, au niveau des températures de fermentation, vous allez tout chercher des goûts différents selon si vous êtes capable de contrôler votre température. Et que très heureux de vous apprendre qu'on a un nouveau partenaire depuis cette semaine et qu'on a Escarpement, qui est le laboratoire de levure qui sont situés au Canada. Et que très heureux qu'ils puissent participer avec nous à nos aventures de microbrasserie. Et que ça fait des années que j'utilise déjà ces souches de levure-là. Mm-hmm. Sont à 180 milliards de
cellules.
Cellules, merci.
C'est qu'est-ce qui te manquait présentement pour finir ta phrase?
Il m'en manque juste deux qui m'en manquaient, là. Fait que ce nombre de cellules-là va justement être très actif. Vous allez voir les recommandations en arrière. Vous n'êtes pas obligé de faire de starter. Il y a amplement de cellules à l'intérieur pour pouvoir pitcher une poche fraîche dans votre mou. Fait que regardez en arrière sur le taux de sucre qu'il peut absorber en votre OG, jusqu'à quoi qu'il peut aller. Fait que sans vous casser la tête, mettez votre poche dedans à température tempérée et non directement froid. Mm-hmm. Parce que si vous sortez du frigo et vous le mettez dans votre bière à 20 degrés, la levure va avoir un choc de température.
Ça, tu sais comment j'aime l'expliquer pour le monde? Mettons là, qu'on commence l'été, là, OK? Puis il fait 35 degrés Celsius dehors. Puis tu décides d'aller te baigner, mais l'eau est à 60. Si tu te pitches directement dans l'eau, ton corps va avoir un choc thermique. Tu vas faire puis tu peux faire une crise cardiaque. Oui, ça aussi. Fait que c'est tout le temps mieux d'aller chercher de l'eau, la mettre dans sa nuque pour pouvoir tempérer ton corps à l'eau que tu vas aller te pitcher dedans. Comme ça, ton choc thermique va être beaucoup moins gros, même si tu en fais beaucoup, si tu te mets beaucoup d'eau, éventuellement, tu n'auras plus de choc thermique parce que tu as fait descendre la température de ton corps. La levure, c'est exactement la même chose, sauf inverse. Tu as un mou à 20 degrés, tu as une poche qui sort du frigo à 5 degrés, puis tu y mets ça dedans, elle a fait un choc thermique, puis il y a certaines souches de cellules qui vont faire des crises cardiaques, si vous voulez, puis qui vont mourir.
Et que ça ne vous donnera pas le résultat. Un, il ne fera pas sa bonne job. Il va vous donner des mauvais goûts. Puis, en bout de ligne, mais peut-être vous êtes capable de même perdre votre batch parce que, justement, on n'a pas fait attention. Et que généralement, quand que mon ébullition commence, moi, je sors déjà ma poche sur mon comptoir.
Ah ouais, ta femme doit être contente.
De lever.
Ah, OK. Fuck. Je trouvais ça aussi bizarre qu'il sortait sa poche à l'ébullition.
Oui, il est pour la stériliser.
Ah!
Fait que...
Allô, est rouge?
Tu sais, ben, on passe à la levure. On reste à la levure. Et que la levure, on la sort d'avance pour pouvoir qu'elle vienne tempérer et non d'un coup. Et que ça va reprendre les températures plus de pièces. Et que vous allez toujours prendre votre température de votre moussi avant de mettre votre levure dedans. Et que vous voulez s'assurer que le contraste, parce que durant l'hiver, l'eau qui sort de votre robinet sort beaucoup plus froid. Et que c'est facile de tomber peut-être à un mou à 10 degrés.
Oui, c'est super facile.
Que si vous ne portez pas attention, si ça devient trop froid, mais là, vous allez avoir un autre contraste. En été, l'eau qu'on a, des fois, quand je vais refroidir, je peux pas faire mieux que 25 degrés. Mm-hmm. Et que je vais beau refroidir au maximum, mettre ça, le couler tranquillement, je vais rester à 25 degrés.
Présentement, l'eau est à 26,5.
Et que pour le résultat que ça donne, prenez toujours vos mesures. Pour ceux qui ont la chance d'être équipés comme que j'ai à la maison avec un glycol pack, ben, généralement, si, exemple, c'est trop chaud, je vais simplement brancher mon fermenteur sur le glycol pack, je vais descendre la température que j'ai besoin et je vais rajouter ma levure à la température voulue.
Puis ça, c'est vraiment important de le faire comme ça. Si vous n'avez pas la possibilité, vous mettez votre moût à l'air climatisé si vous avez un air climatisé pour laisser descendre le plus possible à la température de fermentation. Qu'est-ce qui est le fun, par exemple? Ces dernières années, on a des nouvelles souches de levure. V'là, mettons, 3, 4, 5 ans. Si tu voulais brasser l'été, la seule souche de levure vraiment disponible pour des hautes températures, tu avais la Hefeweizen qui fermente relativement un petit peu plus chaud, 24, 25 des fois, tout dépendant des souches. Tu avais le goût de gomme ballon ou de banane qui sortait. Mais aujourd'hui, on a des souches qui s'appellent des Gdvaik. Puis ces vagues-là, on a différentes souches qui peuvent monter à des températures, je vais appeler ça pour une levure extrême, là, parce qu'on s'entend qu'un 45 degrés Celsius, c'est assez extrême comme température de levure qu'on est habitué de dire au monde, mets ta pièce à 18, mets ta pièce à 20. Fait que c'est vraiment comme 45. Fait que s'il fait 45 degrés Celsius chez vous, là, je pense que même toi, tu dormiras pas la nuit. Fait que ça te permet vraiment d'avoir une belle plage de température de souvent 20 à 45 ou 20 à 35. Fait qu'il te permet de brasser des bières super bonnes l'été qui va te sortir comme fou goût. En réalité, le goût de la levure qui va te sortir, ça va être souvent fruits tropicaux, goviaves, certaines choses comme ça. Puis maintenant, ils ont pris ces souches de levure-là qui ont en laboratoire, escarpement, ils ont fait ça d'ailleurs, qui ont pris puis ils ont trouvé certaines cellules qui donnaient d'autres goûts, puis qui ont multiplié à côté, qui ont fait la Crispy. T'as-tu brassé avec la Crispy?
Non, j'ai pas encore eu l'occasion de... Parce que ça, si je me rappelle bien, ça l'a sorti cette année, mm-hmm. cette souche de levure-là.
Crispy, c'est bien, hein?
Crispy Cream.
Ouais, exactement. Puis c'était super drôle parce qu'il avait mis un corvoyeur à beigne. Peux-toi une beigne, deux beignes, trois beignes, la levure. Un beigne, la levure. Puis en gros, cette levure-là, elle va sortir des goûts neutres. Fait un peu comme une style lager, si vous voulez, s'il est fermenté vers 18-19. Puis un petit peu plus fruits tropicaux, s'il est fermenté un petit peu plus chaud. Fait que ça vous permet de pouvoir faire, on appelle ça des fausses lagers.
Et que ça va vous permettre, pour ceux qui ne sont pas capables de contrôler la température chez vous, d'avoir une tranquillité d'esprit pour être capable d'avoir quand même un bon produit. Puis si jamais il y a eu des bouffées de chaleur, ou la bière, elle a comme vraiment chauffé parce qu'elle a travaillé très fort. Parce que plus la température est élevée, plus que votre fermentation devient active aussi. Et que généralement, la fermentation va se faire dans une période beaucoup plus rapprochée au lieu de s'étirer parce que la chaleur aide justement les levures à s'activer et à faire son travail plus rapidement. Et pour ceux qui ne peuvent pas rien faire à la maison, c'est une belle alternative pour être capable d'avoir un bon produit sans avoir de faux goût parce que la levure est capable de prendre ces températures-là. Vous allez avoir d'autres esters que ça va produire. Et que c'est très le fun de dire que ben avant de m'équiper, ben, je peux pouvoir m'amuser sans nécessairement dire que je vais scraper ma batch parce que j'ai pas l'équipement en conséquence.
J'ai une question à te poser.
Uh-oh.
Je me suis fait poser cette question-là, puis j'ai trouvé ça super intéressant, fait que je te pose.
Good.
T'as déjà fait des lagers?
J'ai déjà fait des lagers.
OK. T'as déjà fait des diacetyl rest puis des lagering?
À chaque fois.
OK, puis si je prends, mettons, la crispy, j'ai-tu besoin de faire un diacetyl rest?
Parce que si tu fais déjà... c'est que la levure va travailler en conséquence de la température. Donc, si t'es déjà à haute température, ben elle va être déjà à la bonne température pour pouvoir remanger ses mauvais goûts. Et que tu seras pas obligé de faire un diacétylrest pour être capable de le monter plus élevé encore.
Puis le lagering, ça va être mon cold crash?
C'est un cold crash. C'est juste que le lagering, c'est le terme qu'on utilise pour le faire à long terme. Et que quand vous allez garder votre basse température, ben vous allez le faire pendant peut-être 1, 2, 3, 4 semaines.
Mais je peux le faire dans mon keg.
Oui, dans un sens, ça peut faire la même chose. Donc, si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez le mettre dans votre, si, pour ceux qui ont des kegs, vous allez le mettre dans votre frigo. Vous pouvez commencer la gazification. Je l'ai bien dit.
Oui, tu l'as bien dit cette fois-ci.
Puis vous allez fermer votre porte, puis vous êtes capable de juste oublier votre bière là. Et que c'est comme si il va être déjà en train de se gazifier. Et en même temps, tous les dépôts vont tomber dans le fond pour pouvoir clarifier votre bière. C'est sûr qu'en faisant ça, probablement que la première ou la deuxième pinte que vous allez vous sortir, vous allez peut-être avoir beaucoup de troubles. Parce que vous allez sortir tout le fond, puis par la suite, votre bière va être très claire. Et c'est une façon de sauver du temps, si vous voulez, au lieu de faire le... Pour ceux que, un, ils peuvent pas faire le lagering parce qu'ils n'ont pas l'équipement, mais si vous avez un frigo en keg, juste d'attendre dans votre frigo, ça va faire absolument la même chose. Et l'avantage de ça, c'est que votre keg qui est dans le frigo, il ne bougera pas. Et qu'une fois que vous l'avez laissé là, puis vous avez purgé le fond, ben vous ne brassez plus rien et que la bière va pouvoir rester claire. Au lieu de vouloir faire un transfert puis d'arrêter d'attendre que le trouble retombe quand vous allez mettre dans le frigo.
Fait que l'avantage qu'on peut avoir avec ces types de levures-là, c'est que vous pouvez faire des lagers à température chaude et au lieu de passer un mois en fermentation, 3 semaines, c'est fait. Fait que vous avez une belle lager, une Pilsner lager faite avec la Crispy, faite en 3 semaines. C'est quand même incroyable.
Oui, après ça, une fois que vous êtes prêt à boire, ben vous avez gagné beaucoup de temps, puis vous allez avoir quelque chose de très clair aussi parce qu'il va rester au froid.
Qu'est-ce qui est le fun aussi avec Escarpement, c'est qu'ils ont une variété vraiment phénoménale de levures. Et quand on dit une variété, là, c'est assez incroyable. On a, oui, les souches qui sont disponibles dans d'autres, les grandes souches très, très, très populaires comme la Irish, comme la Hefeweizen, comme des types anglais. Que c'est disponible dans d'autres souches de levure. Mais qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont des brettes ou des souches sauvages, je devrais dire. Puis des souches sauvages qui viennent soit du Québec, soit de l'Ontario. Il y a certaines microbrasseries au Québec qui travaillent en partenariat avec eux pour faire leurs souches à eux. Puis souvent, ils les mettent disponibles pour les homebrew aussi. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant? La Walting, la chose, là...
Oui, mais...
C'est pris d'un pommier, c'est pris sur un pommier québécois pour refaire cette levure-là. Fait que c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler avec ce type de levure-là qui ont travaillé avec des souches québécoises ou ontariennes directement. On n'a plus juste la Jean Talon qui est québécoise ou canadienne comme souche de levure maintenant, avec ces laboratoires-là qui sont des jeunes comme nous, là, du monde dans la trentaine, quarantaine, puis qui sont vraiment portés sur le côté levure. Au lieu d'ouvrir des microbrasseries, ils avaient l'expertise pour faire de la levure, puis ils travaillent des beaux produits puis des bons produits.
Avec la nouvelle, avec notre nouvel partenariat, Tlocket, on va essayer de vous guider en même temps pour dire si on voulait faire une bière comme qu'on a goûté ce matin.
Mm-hmm.
C'est quoi la levure qu'on prend avec nos chers amis d'Escarpement pour pouvoir reproduire quelque chose de semblable?
La Hubervise?
Ou Vizen?
Je sais pas comment le prononcer, mais je vais aller te le chercher pendant que tu jases encore.
Ah oui, parce que nous, on veut vraiment essayer de pousser que vous essayiez des différentes choses. Donc là, présentement, on n'est pas dans des bières populaires que tout le monde trippe parce qu'on voit que les New England IPA, les gens sont fascinés par ça puis ils veulent en produire puis ainsi de suite. Mais si vous voulez sortir de ce sentier battu pour essayer quelque chose de nouveau, on va essayer justement de discuter avec vous, de pouvoir vous conseiller parce que dans les mêmes exemples, juste avec Escarpement, des fois, vous allez avoir plus qu'une souche. Donc, vous allez avoir peut-être plus qu'un choix que vous allez être capable de prendre pour être capable de faire une bière avec certaines variantes, tout dépendant de la souche que vous allez prendre. N'oubliez pas que amusez-vous avec vos températures de fermentation si vous avez accès à le faire. Ça va vous permettre justement d'avoir peut-être un goût plus banane, un goût un petit peu plus gomme-ballon, tout dépendant de ce que vous voulez faire. Mais c'est à essayer. Fait que on va essayer de trouver...
Ils font 2 souches de levure présentement.
Ça, je disais.
Il y a la Vizen 1.
Oui.
Puis la Hubervizen.
Oui.
2 souches de levure, puis tu vois, comme j'expliquais tantôt, ça fermente jusqu'à 24 degrés, les 2 souches. Fait que c'est disponible pour brasser à des temps un petit peu plus chauds. Si tu veux faire une bière plus classique blanche, on a les deux souches qui sont classiques wheat puis la fruity wheat beer.
C'est plus le côté belge. Les wheat beer vont chercher le côté belge avec des saveurs un petit peu différentes. Puis si on regardait plus allemand comme la bière qu'on vient de goûter, c'est plus la Weizen.
Weizen.
Avec un W.
Avec un W puis on faisait un V. Weizen.
C'est ça.
Il faut pas essayer de comprendre. Fait comme je disais, il y a une belle grosse variété. Puis eux, qu'est-ce que j'adore de cette compagnie-là? Si vous voulez participer, vous qui nous écoutez à la maison, qui avez la possibilité d'acheter du escarpement au brasseur, vous avez la possibilité d'aller vous inscrire sur leur site à The Dvike Ring. Le Dvike Ring, c'est quoi? C'est que c'est des souches de levure qui ont muté ou qui ont fabriqué ou qui ont eu de nouvelles, comme la Crispy l'était. Puis ils la mettent dans le Dvike Ring. Puis c'est vous, les brasseurs, qui mettez vos températures de fermentation que vous avez faites avec les goûts que vous avez faites, puis vous envoyez les données à Escarpement, puis eux vont faire la description avec toutes les données récoltées à travers toutes les personnes qui utilisent cette levure-là puis qui ont envoyé leur information. Fait que si toi, t'as fermenté à 45 puis ça a sorti tel goût, puis toi, t'as fermenté à 10 puis ça a sorti tel goût puis c'était bon, on s'entend, là. Puis si c'était pas bon, il faut leur dire aussi, mais ils vont être capables de dire, OK, cette levure-là peut fermenter de 10 à, mettons, 12 va donner telle sorte de goût, de 20 à 25, telle sorte de goût, de 30 à 45, telle sorte de goût. 45 en montant, ça marche pas. Peut-être ça marche. Fait que c'est vous qui allez aider la compagnie à donner des descriptions. Puis ça, c'est vraiment le fun qu'ils fassent ça, qu'ils permettent aux amateurs de bière comme moi et Kev
de participer et de faire partie un peu de la communauté pour pouvoir développer un peu les nouveaux produits pour avoir qu'est-ce que vos expériences. La majorité du temps, les souches de levure qui sortent, c'est par batch. Fait que ça va, c'est pas quelque chose qui va être continuellement là. Telle date, ils vont sortir telle souche. Puis là, vous allez avoir ça. Fait que si, exemple, le temps a passé, mais ça se peut bien que vous en retrouvez plus sur le marché, puis ça va être la nouvelle Gouvaille qui va sortir disponible pour des nouveaux tests.
Puis si vous aimez beaucoup cette levure-là, ben vous avez juste à aller envoyer un courriel à eux, puis dire « Hey, on veut brasser », puis plus qu'ils vont avoir de courriel, plus qu'ils vont la rendre accessible. Comme la Crispy qui s'est arrivée, c'était dans le Rheingvike, puis c'était pas supposé de sortir tout le temps, puis maintenant, vu qu'elle est très, très, très populaire, pour les raisons qu'on a énumérées juste un peu avant, je vais pas recommencer. Là.
Merci.
Ben c'est ça, ils sont maintenant tout le temps disponibles.
Fait que, une chose très le fun, maintenant, vu qu'on a un partenariat, on va pouvoir vous en faire profiter un petit peu.
Ouais!
Fait qu'on va pouvoir faire un petit concours avec vous pour pouvoir gagner une levure d'escarpement. La seule chose, c'est qu'on va demander aux gens qu'ils vont pouvoir venir la chercher directement chez le brasseur, et ça ne sera pas envoyé par courrier. Et que désolé, les gens qui habitent très loin ou.
Je viens de penser à quelque chose, mon Kev.
Vas-y, je t'écoute.
Écoute, ce serait le fun de pouvoir faire participer plusieurs personnes, OK? Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va donner la levure. Escarpement nous permet de vous donner des levures. Fait qu'on va donner des levures pour vous. Mais comme Kev disait, il faut venir les chercher ici en magasin. Si vous commandez déjà du grain au brasseur, puis vous commandez déjà des souches de levure au brasseur, puis vous avez une commande à faire, si vous gagnez le petit concours qu'on va faire, ça va me faire plaisir de le mettre dans votre envoi puis de vous l'envoyer. Ça, il n'y a aucun problème. Fait que vous avez juste à commander une recette, ou si vous avez déjà des recettes à commande, ou peu importe, ben tu sais, vous n'êtes pas obligé nécessairement de vous déplacer pour venir me serrer la main puis dire merci Fitz. Faites juste nous envoyer une petite photo avec le pack de levure que vous avez eu pour prouver qu'on l'a vraiment donné et qu'on l'a pas gardé pour nous. Oui. Puis ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer aussi. Là, t'sais. Puis si vous avez la possibilité de venir au brasseur pour venir la chercher, ben ce sera encore mieux. Je vais prendre une photo avec vous derrière le plastiglas ou avec nos masques.
Rien de sexy, mais qu'est-ce que tu veux? On veut rester, Fitz veut rester en santé, en sécurité et pour votre bien-être aussi, si vous voulez continuer à avoir du stock.
Fait que Cav, c'est quoi ton idée pour faire tirer le lover là, de Escarpement? Et c'est quelle souche que tu as le goût de faire tirer? Tu laisses-tu la possibilité aux auditeurs de décider de la souche ou tu voudrais lui imposer un style pour qu'il nous parle après ça de la bière qu'il a brassée avec le style de souche qu'il a brassée?
Aujourd'hui, pour la première fois, on va laisser les gens choisir la souche de lover qu'ils veulent. Par la suite, on va en rediscuter, mais possiblement, tout dépendant peut-être du sujet qu'on va avoir, sur vu qu'on va parler d'un certain type de bière, on aimerait ça aussi en même temps que les gens poussent pour pouvoir essayer un nouvel type de bière et qu'on va essayer de pousser justement le type de levure en conséquence de qu'est-ce qu'on a discuté pour pouvoir faire votre propre test par la suite, pour pouvoir soit découvrir une nouvelle sorte de bière que vous n'avez jamais goûtée auparavant ou encore de vouloir simplement faire le test parce que ce n'est pas dans vos habitudes.
Alors, pour gagner notre concours, pour participer, pas pour gagner, mais pour bien participer au concours, c'est super facile. On va vous faire un lien dans la description. Si vous nous écoutez en podcast, si vous cliquez sur le lien, ça va être aussi dans la description de notre vidéo pour l'avoir. Sinon, vous pouvez aller sur YouTube, sur le channel du Brasseur, puis vous allez pouvoir participer. C'est quoi le site de mon cave qu'on va pouvoir participer?
C'est gleam.io, G-L-E-A-M.io.
Fait que sinon, mais vous allez là, mais ça va peut-être être un peu compliqué de trouver exactement notre concours à nous.
C'est pour ça que ça va être plus facile si on est capable de partager le lien. Vous cliquez directement sur le lien pour vous amener à répondre aux critères pour pouvoir gagner votre levure.
On va vous faire le lien aussi sur Facebook pour le monde qui va nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Le lien va être sur Le Brasseur, sur Fitz Le Brasseur et sur
Kevin Fu.
Pour le monde qui ne nous connaisse pas, on s'est moins présenté au début de cette vidéo-là. Je m'appelle Fitz Le Brasseur, propriétaire de la boutique du Brasseur Adelson, aussi disponible en ligne au www.lebrasseur.ca. Et mon acolyte, le beau Kev en fût.
Et que vous pouvez me suivre sur mon Facebook sur Kev en fût ou bien sur Instagram sur kev.en.fût. Et que moi, je ne suis pas propriétaire, je suis juste un grand passionné de bière qui a eu beaucoup de recherches, beaucoup de formations et beaucoup d'expérience avec les années. On veut dire aussi un gros merci aujourd'hui pour nos amis de Sacco Laflo.
Oui.
C'est un beau boutique de bière de microbrasserie du Québec. Ils sont situés sur Tachereau à la Prairie. On a pu avoir cette excellente petite bière.
La vous allez avoir voisine brassée par microbrasserie Broadway, distribuée par la microbrasserie La Flûte à Bec.
Et aussi, on voudrait remercier nos amis de chez Escarmant,
oui,
qui vont faire partie bien bientôt. Heureux, oui, c'est le fun de pouvoir partager avec vous la petite passion pour pouvoir vous en faire profiter. Avec excellents produits qui sont situés à Guelph, en Ontario.
Aussi disponible à la boutique du Brasseur en passant. Si vous voulez les essayer, vous ne gagnez pas. Puis vous voulez essayer les levures d'escarpement qu'on a tout le temps disponible au Brasseur.
Puis un grand choix de différentes souches de levures pour pouvoir faire plein de tests. Et que vous n'avez pas à vous badrer avec vos starters. Vous allez avoir déjà une bonne fermentation.
N'oubliez pas le concours qu'on vient de faire sur les réseaux sociaux. Vous allez juste avoir à suivre les instructions qui sont situées sous l'onglet concours, puis il va y avoir différents nombres de points attribués à qu'est-ce que vous allez faire. Ça va vous permettre d'avoir plus de chances pour gagner la levure qu'on va faire participer. Si vous êtes plus loin, n'oubliez pas de nous envoyer une commande pour qu'on puisse l'expédier. Si vous êtes dans le coin de Dillson, vous pouvez vous déplacer. Ben, les mustels, lui, en même temps, de venir chercher votre petit cadeau. On va juste vous demander de prendre une petite photo avec la levure et la sorte de bière que vous allez brasser.
En attendant, ce fut un très grand plaisir de parler de bière avec vous. Merci Fitz.
Merci mon beau Kevin Fu.
Sur ce, on souhaite à tout le monde bonne brasse.
Bye. Ciao.